Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle actualité du pape. Et pour commencer, je vais terminer la lecture de Dignitas Infinita que nous avons commencé dans les actualités du pape précédentes avec Olivier. Pour ceux qui voudraient retrouver le début du texte, vous pourrez le retrouver dans les podcasts précédents. Publié par le Dicaster pour la doctrine de la foi le 8 avril dernier, cette nouvelle déclaration est un document qui traite de la dignité humaine. Elle se positionne sur des questions sociales et morales telles que la GPA, le changement de sexe ou l'idéologie de genre. La dernière fois, nous étions arrêtés juste avant le paragraphe 60 sur le changement de sexe et c'est donc à ce niveau que je vais reprendre la lecture. La dignité du corps ne peut être considérée comme inférieure à celle de la personne en tant que telle. Le catéchisme de l'Église catholique nous invite expressément à reconnaître que le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Une telle vérité mérite d'être rappelée, surtout lorsqu'il s'agit de changement de sexe. L'être humain est en effet inséparablement composé d'un corps et d'une âme. Et le corps est le lieu vivant où se déploie et se manifeste l'intériorité de l'âme, y compris à travers le réseau des relations humaines. Constituant l'être de la personne, l'âme et le corps participent ainsi à cette dignité qui caractérise tout l'être humain. À cet égard, il faut rappeler que le corps humain participe à la dignité de la personne, dans la mesure où il est doté de significations personnelles, en particulier dans sa condition sexuée. C'est en effet dans le corps que chaque personne se reconnaît comme engendrée par d'autres, et c'est à travers leur corps que l'homme et la femme peuvent établir une relation d'amour capable d'engendrer d'autres personnes. Sur la nécessité de respecter l'ordre naturel de la personne humaine, le pape François enseigne que la création nous précède et doit être reçue comme un don. En même temps, nous sommes appelés à sauvegarder notre humanité. Et cela signifie avant tout l'accepter et la respecter comme elle a été créée. Il s'ensuit que toute intervention de changement de sexe risque, en règle générale, de menacer la dignité unique qu'une personne a reçue dès le moment de la conception. Cela n'exclut pas la possibilité qu'une personne présentant des anomalies génitales qui sont déjà évidentes à la naissance ou qui se développent plus tard, choisissent de recevoir une assistance médicale afin de résoudre ces anomalies. Dans ce cas, l'opération ne constituerait pas un changement de sexe au sens où on l'entend ici. Violence numérique. Le progrès des technologies numériques, bien qu'il offre de nombreuses possibilités de promouvoir la dignité humaine, tend de plus en plus à créer un monde dans lequel se développent l'exploitation, l'exclusion et la violence, qui peuvent aller jusqu'à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Il suffit de penser à la facilité avec laquelle, par ces moyens, on peut mettre en danger la bonne réputation de quelqu'un par des fausses nouvelles et des calomnies. Sur ce point, le pape François souligne qu'il n'est pas sain de confondre la communication avec le contact purement virtuel. De fait, le monde numérique est aussi un espace de solitude, de manipulation, d'exploitation et de violence, jusqu'au cas extrême du dark web. Les médias numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d'isolement et de perte progressive de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement d'authentiques relations interpersonnelles. De nouvelles formes de violence se diffusent à travers les social media, comme le cyberbizutage. Le web est aussi un canal de diffusion de la pornographie et d'exploitation des personnes à des fins sexuelles ou par le biais des jeux de hasard. C'est ainsi que là où les possibilités de connexion se multiplient, il arrive paradoxalement que chacun se retrouve de plus en plus isolé et démuni de relations interpersonnelles. Dans la communication numérique, on veut tout montrer, et chaque personne devient l'objet de regards qui fouinent, déshabillent et divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de l'autre a volé en éclats, et ainsi, en même temps que je le déplace, l'ignore et le tiens à distance, je peux sans aucune pudeur envahir sa vie de bout en bout. De telles tendances représentent une phase sombre du progrès numérique. Dans cette perspective, si la technologie doit servir la dignité humaine et non lui nuire, et si elle doit promouvoir la paix plutôt que la violence, la communauté humaine doit être proactive en abordant ces tendances dans le respect de la dignité humaine et en promouvant le bien. En ce monde globalisé, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres, à nous faire percevoir un sens renouvelé de l'unité de la famille humaine, qui pousse à la solidarité et à l'engagement sérieux pour une vie plus digne pour tous. Les médias peuvent nous aider dans ce domaine, surtout aujourd'hui, alors que les réseaux de communication humaine ont atteint une évolution extraordinaire. En particulier, Internet, pour offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous. Et c'est une bonne chose, c'est un don de Dieu. Mais il est nécessaire de s'assurer constamment que les formes de communication actuelles nous orientent effectivement vers une rencontre généreuse, vers la recherche sincère de la vérité intégrale, le service des pauvres, la proximité avec eux, vers la tâche de construction du bien commun. Conclusion. À l'occasion du 75e anniversaire de la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pape François a rappelé que ce document est comme une voie maîtresse sur laquelle de nombreux pas en avant ont été faits, mais il en manque encore beaucoup, et malheureusement, on fait parfois marche arrière. L'engagement pour les droits de l'homme n'est jamais terminé. À cet égard, je suis proche de tous ceux qui, sans faire de proclamations, dans leur vie concrète de tous les jours, luttent et paient de leur personne pour défendre les droits de ceux qui ne comptent pas. C'est dans cet esprit que, par la présente déclaration, l'Église demande instamment que le respect de la dignité de la personne humaine, en toutes circonstances, soit placé au centre de l'engagement pour le bien commun et de tout système juridique. Le respect de la dignité de chaque personne est, en effet, la base indispensable à l'existence même de toute société qui se veut fondée sur le droit juste et non sur la force du pouvoir. C'est sur la base de reconnaissance de la dignité humaine que sont défendus les droits fondamentaux de l'homme, qui précèdent et fondent toute coexistence civilisée. Il revient donc à chaque personne, et en même temps à chaque communauté humaine, de réaliser la dignité humaine de manière concrète et effective, tandis que les États ont le devoir non seulement de la protéger, mais aussi de garantir les conditions nécessaires à son épanouissement dans le cadre de la promotion intégrale de la personne humaine. Dans l'activité politique, il faut se rappeler qu'au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. Aujourd'hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l'avenir de l'humanité, l'Église encourage la promotion de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Elle le fait avec espérance, certaine de la force qui découle du Christ ressuscité, qui a révélé dans sa plénitude la dignité intégrale de tout homme et de toute femme. Cette certitude devient un appel dans les paroles du pape François. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n'a le droit de lui enlever. Le souverain pontife François, lors de l'audience accordée au préfet, sous-signé et au secrétaire de la section doctrinale du dicastère pour la doctrine de la foi, le 25 mars 2024, a approuvé la présente déclaration, décidée lors de la session ordinaire de ce dicastère, le 28 février 2024, et en a ordonné la publication. Donnée à Rome, au siège du dicastère pour la doctrine de la foi, le 2 avril 2024, 19e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. Voilà, chers auditeurs, c'était la suite et la fin de la lecture de la déclaration Dignitas Infinita. Et pour continuer cette actualité du pape, je vais maintenant vous lire la catéchèse que le pape François a prononcée mercredi 24 avril, donc il y a une semaine. Ces dernières semaines, le pape François a parlé des vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance, dans le cycle des catéchèses sur les vices et les vertus. Et donc, lors de cette audience générale, le pape François a donné une catéchèse sur le thème de la vie de la grâce selon l'Esprit. Et c'est ce texte que je vais maintenant vous lire. Chers frères et sœurs, bonjour. Ces dernières semaines, nous avons réfléchi aux vertus cardinales, prudence, justice, force d'âme et tempérance. Ce sont les quatre vertus cardinales. Comme nous l'avons souligné plusieurs fois, ces quatre vertus appartiennent à une sagesse très ancienne, antérieure au christianisme. Avant même le Christ, l'on prêchait l'honnêteté comme devoir civique, la sagesse comme règle des actions, le courage comme l'ingrédient fondamental d'une vie orientée vers le bien, et la modération comme la mesure nécessaire pour ne pas se laisser submerger par les excès. Ce patrimoine si antique, patrimoine de l'humanité, n'a pas été remplacé par le christianisme, mais il a été mis en valeur, enrichi, purifié et intégré dans la foi. Il y a donc dans le cœur de chaque homme et de chaque femme la capacité de rechercher le bien. L'Esprit Saint est donné pour que ceux qui le reçoivent puissent distinguer clairement le bien du mal, avoir la force d'adhérer au bien en évitant le mal, et ce faisant, parvenir à la pleine réalisation d'eux-mêmes. Mais sur le chemin que tous, nous avons emprunté vers la plénitude de la vie, qui fait partie du destin de chaque personne, le destin de chaque personne est la plénitude, être plein de vie. Le chrétien bénéficie d'une assistance spéciale de la part de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Elle se concrétise par le don de trois autres vertus, proprement chrétiennes, qui sont souvent mentionnées ensemble dans les écrits du Nouveau Testament. Ces attitudes fondamentales qui caractérisent la vie du chrétien sont trois vertus que nous dirons maintenant ensemble. La foi, l'espérance et la charité. Disons-le ensemble. La foi, l'espérance, je n'entends rien, plus fort. La foi, l'espérance et la charité. Que vous êtes braves. Les auteurs chrétiens les ont très tôt appelées vertus théologales. Dans la mesure où elles sont reçues et vécues en relation avec Dieu, pour les différencier des quatre autres dites cardinales, car constituant le pivot d'une vie bonne. Ces trois-là sont reçues dans le baptême et viennent de l'Esprit Saint. Les unes et les autres, théologales et cardinales, à travers tant de réflexions systématiques, ont ainsi composé un merveilleux septenaire qui est souvent mis en contraste avec la liste des sept péchés capitaux. Voici comment le catéchisme de l'Église catholique définit l'action des vertus théologales. Elle fonde, anime et caractérise l'agir moral du chrétien. Elle informe et vivifie toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Alors que le risque des vertus cardinales est de générer des hommes et des femmes héroïques dans l'accomplissement du bien, mais seul, isolé, le grand don des vertus théologales est l'existence vécue dans l'Esprit-Saint. Le chrétien n'est jamais seul. Il fait le bien non pas par un effort titanesque d'engagement personnel, mais parce que, en tant qu'humble disciple, il marche derrière le Maître Jésus. Lui va devant sur la route. Le chrétien possède les vertus théologales, qui sont le grand antidote à l'autosuffisance. Combien de fois certains hommes et certaines femmes, moralement irréprochables, courent-ils le risque de devenir vaniteux et arrogants aux yeux de ceux qui les connaissent? C'est un danger contre lequel l'Évangile nous met bien en garde, là où Jésus recommande aux disciples. De même, vous aussi, Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » L'orgueil est un venin. C'est un venin puissant. Une goutte suffit pour gâcher toute une vie marquée par le bien. Une personne peut avoir accompli une montagne d'actions bénéfiques, avoir récolté des applaudissements et des louanges. Mais si elle n'a fait tout cela que pour elle-même, pour s'exalter elle-même, peut-elle encore se considérer comme une personne vertueuse ? Non. Le bien n'est pas seulement une fin, mais aussi un processus. Le bien requiert beaucoup de discrétion, beaucoup de gentillesse. Par-dessus tout, le bien doit être dépouillé de cette présence, parfois trop encombrante, qu'est notre ego. Lorsque notre ego est au centre de tout, tout est gâché. Chaque action que nous accomplissons dans la vie, nous ne l'accomplissons que pour nous-mêmes, cette motivation est-elle vraiment si importante ? Le pauvre ego prend le dessus sur tout, et c'est ainsi que naît l'orgueil. Pour corriger toutes ces situations qui deviennent parfois pénibles, les vertus théologales sont d'un grand secours. Elles le sont surtout dans les moments de chute, car même ceux qui ont de bonnes intentions morales tombent parfois. Tous, nous tombons, dans la vie parce que nous sommes tous pécheurs. Tout comme ceux qui pratiquent quotidiennement la vertu se trompent parfois, tous, nous nous trompons dans la vie. L'intelligence n'est pas toujours lucide, la volonté n'est pas toujours ferme, les passions ne sont pas toujours gouvernées, ce n'est pas toujours que le courage l'emporte sur la peur. Mais si nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, le Maître intérieur, il ravive en nous les vertus théologales. Alors, si nous avons perdu confiance, Dieu nous rouvre à la foi. Avec la force de l'Esprit, si nous avons perdu confiance, Dieu nous rouvre à la foi. Si nous sommes découragés, Dieu réveille en nous l'espérance. Et si notre cœur est endurci, Dieu l'adoucit par son amour. Merci. Voilà, chers auditeurs, c'était la catéchèse que le pape François a prononcée il y a une semaine, mercredi 24 avril, sur le thème « La vie de la grâce selon l'Esprit ». Le pape était en visite ce week-end à Venise. Il n'y a pas eu de discours comme il fait habituellement après la prière de l'Angélus le dimanche. Je vais donc vous lire celui de la semaine d'avant, donc du dimanche 21 avril, qui avait pour thème « Jésus, bon pasteur ». Chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Ce dimanche est consacré à Jésus, bon pasteur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis ». Et il insiste sur cet aspect, au point de le répéter trois fois. Mais dans quel sens, je me le demande, le berger donne-t-il sa vie pour les brebis ? Être berger, surtout à l'époque du Christ, ce n'était pas seulement un travail, c'était toute une vie. Il ne s'agissait pas d'avoir une occupation particulière, mais de partager des journées entières, et même des nuits, avec les brebis. De vivre, j'aimerais dire, en symbiose avec elles. Jésus, en effet, explique qu'il n'est pas un mercenaire, qui ne se soucie pas des brebis, mais celui qui les connaît. Il connaît les brebis. C'est vrai, lui le Seigneur, notre berger à tous, nous connaît, chacun d'entre nous, nous appelle par notre nom, et quand nous nous égarons, il nous cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. De plus, Jésus n'est pas seulement un bon berger qui partage la vie du troupeau. Jésus est le bon pasteur, qui a sacrifié sa vie pour nous, et qui, ressuscité d'entre les morts, nous a donné son esprit. C'est ce que le Seigneur veut nous dire avec l'image du bon pasteur. Non seulement il est le guide, le chef du troupeau, mais surtout il pense à chacun de nous. Il nous considère comme l'amour de sa vie. Pensons-y, je suis important pour le Christ, il pense à moi, je suis irremplaçable, je vaux le prix infini de sa vie. Et ce n'est pas une simple figure de style. Il a vraiment donné sa vie pour moi, il est mort et ressuscité pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il m'aime et qu'il trouve en moi une beauté que souvent je ne vois pas. Frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui se considèrent médiocres ou même mauvaises ? Combien de fois pensons-nous que notre valeur dépend des objectifs que nous sommes capables d'atteindre, de notre succès aux yeux du monde, des jugements des autres ? Et combien de fois finissons-nous par nous épuiser pour de petites choses? Aujourd'hui, Jésus nous dit que nous avons toujours une grande valeur à ses yeux. Ainsi, pour nous retrouver, la première chose à faire est de nous mettre en sa présence, de nous laisser accueillir et apaiser par les bras aimants de notre bon pasteur. Frères, sœurs, demandons-nous donc, est-ce que je sais trouver chaque jour un moment pour accueillir la certitude qui donne de la valeur à ma vie? Est-ce que je sais trouver un moment de prière, d'adoration, de louange pour me mettre en présence du Christ et me laisser caresser par lui? Frères, sœurs, le bon pasteur nous dit que si tu le fais, tu découvriras le secret de la vie. Tu te souviendras qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous tous. Et que pour lui, nous sommes tous importants, chacun de nous et nous tous. Que la Sainte Vierge nous aide à trouver en Jésus ce qui est essentiel à la vie. Voilà, chers auditeurs, c'était le discours que le pape François a prononcé après la messe, après la prière. Voilà, chers auditeurs, c'est le texte que le pape François a prononcé juste après la prière de l'Angélus, dimanche 21 avril.